VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 3 mars 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. Au Sénégal, Ousmane Sonko arrêté pour trouble à l'ordre public. L'opposant se rendait à une convocation de la justice accompagné de plusieurs centaines de ses partisans dans les rues de Dakar. En Côte d'Ivoire, le FPI pro-Gbagbo prendra part aux législatives de samedi. Le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo n'avait pas participé à des élections au moins depuis 10 ans. Au Burkina Faso, l'explosion hier d'une mine artisanale au passage d'une ambulance dans le nord du pays a fait 6 morts, dont une femme enceinte. Au Cameroun, nous aurons une interview exclusive avec le ministre de la Santé après une année de ravages du Covid-19. Et la visite historique et très attendue du pape François en Irak qui maintient son voyage malgré les tirs de roquettes. Également dans cette édition, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. Une fois encore, bonsoir au Sénégal. Donc, Ousmane Sonko a été arrêté ce mercredi à Dakar avant sa comparution au tribunal. Il était accompagné de centaines de partisans pour aller répondre à une convocation de la justice. L'opposant et leader du parti PASTEF a été informé de son arrestation pour atteinte à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Plus de détails avec Sedina Abagué, notre correspondant à Dakar.
Attendu au palais de justice de Dakar, l'opposant Ousmane Sonko a finalement atterri à la section de recherche de la gendarmerie nationale après plusieurs heures de tension entre son camp et les forces de l'ordre. Ces dernières, guidées par le préfet de Dakar, ont dressé un itinéraire que le leader du parti PASTEF a refusé de suivre. Ousmane Sonko avait choisi de passer par la route de l'université de Dakar car d'après lui, aucune loi ne lui impose un chemin à prendre pour aller répondre à une convocation de la justice. Face à la détermination de l'opposant et sur ordre du préfet de Dakar, la gendarmerie l'a bloqué au rond-point Mermoz avant de disperser ses militants et sympathisants à coups de grenades lacrymogènes. Plus d'une heure plus tard, des blindés du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ont encerclé le véhicule de Sonko et procédé à quelques interpellations au sein de sa garde rapprochée. L'arrivée de ses avocats n'y changera pas grand-chose puisque quelques minutes après, le commandant de la gendarmerie signifiait à Ousmane Sonko son arrestation pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisé avant de l'embarquer à destination de la section de recherche de la gendarmerie nationale. Après l'annonce et la publication des images de l'arrestation de l'opposant, des manifestations ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar pour exiger sa libération immédiate et sans condition. Sedina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo réunis au sein d'une coalition prendront part aux législatives de samedi. Une première depuis son arrestation en 2011 et son jugement à la Haye pour son rôle présumé dans la crise post-électorale. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le Front populaire ivoirien pro-Gbagbo, qui a boycotté toutes les élections depuis 10 ans, est le moteur d'une coalition de mouvements pro-Gbagbo, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Cette coalition présente des candidats dans la plupart des circonscriptions aux législatives du 6 mars. Ce scrutin marque le retour de Laurent Gbagbo et de son organisation politique dans le jeu politique institutionnel, se réjouit son fils aîné Michel, candidat dans la commune de Yopougon à Abidjan, ancien fief du FPI et des jeunes patriotes de Charles Blé Goudé. La coalition EDS a passé une alliance électorale avec le principal parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Henri Konan Bédié, ancien président et ancien allié du chef de l'État Alassane Ouattara. L'objectif de cette alliance, selon Bédié et Gbagbo, est de peser à l'Assemblée nationale pour empêcher la consolidation d'un pouvoir absolu d'Alassane Ouattara et de son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui détient la majorité absolue.
Au Burkina Faso voisin, le bilan de l'explosion d'une mine artisanale au passage d'une ambulance s'est alourdi à 6 morts, selon un nouveau bilan du gouvernement. Le point avec Abdourahmane Dia.
Un précédent bilan faisait état de 4 morts, dont une femme enceinte et une fillette, décédées dans le véhicule complètement soufflé par l'explosion. Il s'agit d'une ambulance du district sanitaire de Djibo qui a sauté sur une mine entre Gaskindé et Namisigiya dans la région du Sahel, selon le porte-parole du gouvernement burkinabé, Ousseni Tamboura. Il qualifie cet incident de lâche et barbare. Le gouvernement burkinabé a condamné fermement cet acte criminel. Le 23 février, deux femmes ont été tuées dans les mêmes circonstances lorsque leur charrette a sauté sur un engin artisanal dans la province du Yaga, toujours dans le nord du pays. Les attaques avec des engins explosifs improvisés qui se multiplient depuis 2018 ont coûté la vie à près de 200 personnes, civiles et militaires. Comme ses voisins du Sahel, le Mali et le Niger, le Burkina Faso est confronté à des attaques djihadistes, en particulier dans ses régions du nord et de l'est, qui ont fait plus de 1200 morts et 1 million de déplacés depuis 2015.
Dans le nord-ouest du Nigeria, les quelques 279 adolescentes libérées mardi après avoir été captives durant 4 jours doivent retrouver leur famille ce mercredi. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation de l'État de Zamfara. Il s'agissait du 4e enlèvement de masse d'écoliers en moins de 3 mois au Nigeria. Au moins 6 civils ont été tués et plusieurs autres blessés dans les attaques djihadistes contre la ville de Dikwa lundi et mardi dans le nord-est du Nigeria, a affirmé mercredi une coalition de 54 ONG installées au Nigeria. Au moins 6 civils ont perdu la vie, plusieurs autres ont été blessés ou sont toujours portés disparus, tandis que des milliers de personnes essayent de fuir la ville après ces attaques. Au Cameroun, l'armée a qualifié d'allégations prétendument documentées les accusations de viol et de meurtre des civils par des soldats en mars 2020 dans une zone anglophone. Allégations portées dans un récent rapport de Human Rights Watch. L'ONG a accusé vendredi les soldats camerounais d'avoir violé au moins 20 femmes, dont 4 handicapées, d'avoir tué un homme et d'en avoir arrêté 35 autres. Au Mozambique, Amnesty International a accusé mardi les forces gouvernementales et des mercenaires d'avoir tué sans discernement des civils au cours de leur lutte contre la rébellion djihadiste dans la province de Cabo Delgado. Amnesty affirme s'être entretenu avec des dizaines de personnes déplacées dans le pays et avoir examiné des vidéos et des images, y compris des images satellites. Deux traducteurs éthiopiens collaborant pour l'agence France Presse, le Financial Times, la BBC et un journaliste local ont tous été libérés après avoir été détenus au Tigré dans le nord de l'Éthiopie. La Commission éthiopienne des droits de l'homme avait invité hier les autorités à les libérer ou alors à dévoiler les accusations éventuelles contre les 4 personnes. Le Soudan doit recevoir ce mercredi son premier lot de vaccins contre le coronavirus et commencera à vacciner son personnel médical dès la semaine prochaine. Le lot comprend quelques 800 000 doses du vaccin AstraZeneca fourni grâce au dispositif COVAX. La Gambie, le Nigeria, le Kenya, l'Angola et la République démocratique du Congo ont à leur tour reçu mardi leur première dose de vaccin contre le COVID-19. Ces vaccins sont financés par le dispositif COVAX. Le Sénégal, qui a déjà commencé sa campagne de vaccination, devrait recevoir ce mercredi un lot de près de 300 000 vaccins fournis par COVAX. Environ 2400 doses de faux vaccins ont été saisies en Afrique du Sud, tandis qu'un réseau de vaccins contrefaits a été démantelé en Chine, a annoncé Interpol en prévenant qu'il ne s'agissait que de la face visible d'un iceberg. L'Organisation internationale de coopération policière basée à Lyon précise que 3 ressortissants chinois et 1 zambien ont été interpellés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François est attendu en Irak à partir du 5 mars prochain. Une visite papale historique au cours de laquelle le souverain pontife se rendra sur les sites les plus emblématiques de l'islam et du christianisme. Mohamedou Oumfa.
Le pape argentin de 84 ans se rendra dans la ville sainte de Najaf où est enterré l'imam Ali, gendre du prophète Mahomet et figure fondatrice de l'islam chiite. Dans la capitale de l'islam chiite, le pape sera reçu par le grand ayatollah Ali Sistani, 90 ans et plus haut dignitaire religieux qui n'apparaît jamais en public. Le tête-à-tête sera un événement phare pour la population musulmane d'un pays à 60% chiite et à 37% sunnite. Le souverain pontife prononcera aussi un discours dans la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours à Bagdad, une cathédrale visée par un attentat djihadiste sanglant en 2010 qui a causé la mort d'une cinquantaine de personnes. Le pape va effectuer une visite de soutien aux communautés chrétiennes qui ont perdu des centaines de milliers de fidèles massacrés pendant l'occupation d'une partie de l'Irak par le groupe État islamique. Le pape entend aussi prêcher le dialogue interreligieux en prenant part à une prière à Our, berceau d'Abraham, en compagnie de dignitaires chiites, sunnites, yazidis et sabéens. Covid-19 oblige, le pape sera privé de bains de foule car le pays sera en confinement total.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Tuniser et la compagnie des phosphates d'Ogafsa, deux poids lourds du secteur public tunisien, sont au bord de la faillite. La pandémie de Covid-19 et l'instabilité politique ont accentué la fragilité de ces entreprises, plombées par les dettes, des effectifs pléthoriques et une gestion défaillante. Tunisair a vu ses comptes bloqués à la mi-février en raison d'impayés à l'opérateur aéroportuaire franco-turc TAV Airports. La compagnie compte environ 7600 employés pour 26 avions, dont 7 sont opérationnels. Le pétrole a connu en février une baisse de 870 000 barils par jour par rapport à janvier. Les 13 membres de l'OPEP ont pompé 24,9 millions de barils par jour. Il s'agit de la première baisse bimensuelle depuis juin 2020. L'Arabie Saoudite a réduit sa production d'environ 850 000 barils par jour en février pour éviter la constitution des stocks. Un milliardaire japonais offre 8 tickets à des personnes du monde entier pour l'accompagner dans un voyage de tourisme spatial autour de la Lune prévu en 2023 avec SpaceX. Yusaku Maezawa, mania de la mode en ligne, collectionneur d'art contemporain MSN, a été le premier client privé à réserver un vol à bord de Starship, une future fusée habitable développée par l'entreprise aérospatiale américaine d'Elon Musk pour un montant non divulgué.
Après donc la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Nous reparlons de l'élection à la présidence de la CAF prévue pour le 12 mars. Vous le savez, 4 candidats sont en lice. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahia et l'Ivoirien Jacques Anouma. Après une rencontre des 4 à Rabat au Maroc le week-end écoulé, selon des sources proches des candidats, Augustin Senghor et Ahmed Yahia seraient prêts à accepter la proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino, de renoncer à se présenter lors du scrutin pour laisser la scène aux milliardaires sud-africains. Contre les postes du premier et deuxième vice-président, Jacques Anouma se verrait proposer un poste de conseiller du président. L'Ivoirien sort du silence et confirme qu'il y a bel et bien eu entente, mais juste un accord de principe. Jacques Anouma.
C'est un accord de principe, ce n'est pas un accord définitif. Tous les 3 candidats, chacun peut sortir de cet accord-là quand il veut, avant la date du 6.
L'Ivoirien confirme que son concurrent sud-africain Patrice Motsepe a bel et bien été proposé comme président de la CAF.
Pour le moment, c'est lui qu'on a proposé devant. Maintenant, si moi, en retour ici, on me dit non, on n'est pas d'accord, machin, non, mais si on n'est pas d'accord, la seule chose, façon de nous départager, c'est l'élection. C'est ça même qui est démocratique.
Anouma dénonce par contre le procédé par lequel cet accord de principe a été obtenu.
Aujourd'hui, on met plutôt en avant une distribution de postes qu'un accord de aller vers l'unité. On est tous d'accord qu'on a tout le monde a montré un visage qui n'était pas très beau. Mais si on peut arriver à cette unité, ne voyons pas nos personnes. Moi, vraiment, je suis choqué parce que on a l'impression que on a sacrifié l'Afrique sur l'autel de nos ambitions personnelles.
L'ancien membre du comité exécutif de la FIFA se dit cependant prêt à accepter un compromis si cela aiderait le football africain à aller de l'avant.
Si un accord, appelons ça un accord politique, peut permettre de sauver l'institution, mon cher frère, je suis preneur. Si ça peut permettre de sauver l'institution, dans le respect mutuel de la qualité et de la compétence de chacun.
Après la rencontre de Rabat, chaque candidat est rentré dans son pays pour des consultations. Ils doivent se retrouver le week-end à Nouakchott, en Mauritanie, lors de la finale de la CAN des moins de 20 ans, pour arrêter un choix avant l'élection du 12 mars. Ici, en NBA, Nikola Jokic, en mode triple-double, 37 points, 11 passes décisives et 10 rebonds. Le cinquième de sa carrière en saison régulière a remporté son duel de titan contre Gianni Antetokounmpo lors de la correction infligée par Denver à Milwaukee, 128-97. Les Boston Celtics se sont imposés 112-117 face aux Los Angeles Clippers.
Merci, Yakuba. Vous écoutez chez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, John Linden toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Congo, Brazzaville, plusieurs organisations de la société appellent les autorités à organiser un dialogue inclusif avec tous les acteurs politiques afin de tenir une élection présidentielle équitable et apaisée. À Pointe-Noire, la capitale économique, ces ONG sensibilisent la population avant ce scrutin. Des détails avec notre correspondant Arsène Séverin qui est à Pointe-Noire.
La population de Pointe-Noire suit de près le processus électoral. La société civile est même très divisée sur l'appréciation du scrutin à venir. Pour le mouvement citoyen Le Ras-le-Bol, l'élection présidentielle est déjà biaisée. Son porte-parole, Christian Dongui.
La CENI et le ministère de l'Intérieur, c'est les deux d'ailleurs qui vont voter. En fait, c'est pas le souverain primaire comme tel. Je dirais c'est une élection biaisée d'avance. Nous allons, je pense, faire du porte-à-porte. Faudrait pas que le vote soit volé.
Franck Badiata, le responsable du ras-le-bol à Pointe-Noire, se plaint de la situation des jeunes qui seraient l'objet de la manipulation politique.
Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes aujourd'hui jusqu'à près de 40 ans. Le pouvoir, rien n'a changé. La jeunesse Pointe-Noire est toujours marginalisée. Depuis les dernières élections de 2016 encore, nous vivons vraiment l'invivable ici à Pointe-Noire.
Il y a par ailleurs ici des ONG qui suivent régulièrement les élections depuis des années. C'est le cas de la Commission catholique Justice et Paix qui est en train de former 4000 observateurs pour ce scrutin. Brice Makosso, son secrétaire permanent à Pointe-Noire, espère que le gouvernement leur accordera des accréditations nécessaires.
Moi, je ne dis pas que je suis en train de soutenir le processus. Nous le dénonçons. Nous disons que le processus, il est biaisé. C'est une élection qui est mal engagée. Mais on ne peut pas se mettre en retrait. Sinon, lorsqu'on n'est pas témoin, on n'a pas le droit de témoigner à la fin. Nous sommes en capacité de déployer plus de 4000 observateurs à travers toute l'étendue du territoire national. Et nous demandons évidemment au gouvernement, s'ils n'ont rien à cacher par rapport à cette élection, de nous accorder cette accréditation, de nous donner le droit de déployer nos 4000 observateurs que nous avons formés.
Dans la même optique, la RPDH du président Christian Mounzeo estime que le boycott pour les boycotts n'est pas une solution politique.
Il est clair que l'élection se tiendra le 21 mars prochain. En tant que citoyen observateur, nous pensons que les conditions pour que l'observation indépendante de cette élection soit réunie au stade actuel, on peut voir que même ne serait-ce que la campagne électorale, il y a un manque d'équité. Lorsqu'on voit que, par exemple, le candidat de la majorité est pour sa part, depuis de longues semaines, dans une sorte de pré-campagne ou de campagne électorale qui ne dit pas son nom.
Pointe-Noire reste la poule aux œufs d'or tant convoitée par les 7 candidats en lice à cette élection présidentielle. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui avait réalisé un très mauvais score ici en 2016, va lancer vendredi prochain sa campagne électorale au rond-point Lumumba. Arsène Séverin, Pointe-Noire, VOA Afrique.
Au Cameroun, le nombre des décès et de personnes testées positives au COVID-19 est en augmentation. Le pays est passé de 46 décès par mois en 2020 à une moyenne de 52 morts mensuelles en 2021. et près de 10 000 nouveaux cas ont été enregistrés entre fin décembre 2020 et le mois dernier. Conséquence, les centres de prise en charge ne désemplissent plus suite à un relâchement général des mesures barrières. Emmanuel Juntap, notre correspondant au Cameroun, a obtenu une interview exclusive avec le ministre camerounais de la Santé publique, Malachi Manaouda, qui aborde d'abord le plan de riposte du gouvernement.
Nous gardons notre stratégie 3T, traquer, tester et traiter. Nous gardons la décentralisation de la riposte qui implique, n'est-ce pas, tous les acteurs de la chaîne jusqu'aux leaders d'opinion, jusqu'aux leaders religieux, jusqu'au dans les communautés. Ce qui pourrait changer en réalité, c'est simplement davantage d'engagement dans le respect des mesures barrières et dans le port systématique de masques, parce qu'il y a eu un relâchement. Et nous nous mettrons à disposition de quoi tester massivement les populations, notamment dans les formations sanitaires qui constituent une porte de surveillance active des cas. Les personnels de santé puissent à intervalles réguliers être systématiquement testés. Tout ce qui arrive dans notre pays, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou alors maritime, sont testés.
À vous écouter, monsieur le ministre, vous avez beaucoup parlé de tests, mais pas de vaccins. Certains pays africains, le Ghana, Côte d'Ivoire, la RDC, ont plus ou moins déjà commencé des campagnes ciblées. Quelle est l'option du Cameroun à ce sujet?
Lorsque les vaccins ont été découverts, ce que le président nous a demandé, c'est de préparer le Cameroun à une éventuelle introduction de ce vaccin. Au cas où la situation épidémiologique commande qu'on ait besoin d'un vaccin, que ce vaccin ne soit pas en manque au Cameroun. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Un plan de déploiement et de vaccination a été validé, élaboré et validé. Nous avons souscrit à l'initiative COVAX. Et naturellement, nous sommes en train de remplir les conditions pour recevoir dans les jours qui suivent aussi le vaccin.
Qui sera prioritaire, monsieur le ministre?
Le conseil scientifique et le NITAG ont rendu leur copie sur la question. La priorité va être consacrée au personnel de santé.
L'initiative Follow the Money, qui est née au Nigeria, a été lancée au Cameroun par une jeune ONG qui voudrait avoir plus de transparence dans la gestion de fonds Covid. Y a-t-il eu transparence sur la gestion de fonds Covid au Cameroun?
Chaque fois qu'on me pose la question, ça me fait sourire. Parce que ceux qui ont voulu suivre la gestion des fonds Covid peuvent d'eux-mêmes retransmettre tout ce qu'ils ont. Nous avons à la fin du processus rendu public l'ensemble des marchés publics. Des marchés qui ont été passés dans le cadre du Covid. Alors, je ne sais pas ce qu'on voudrait encore. Vous le savez très bien, nous faisons l'objet de contrôles. Le contrat est en train de faire son travail. Pourquoi est-ce qu'on anticipe ensuite une certaine conclusion alors qu'il y a des gens qui sont à pied d'œuvre? Moi, je crois que ce serait mieux de le faire. Au départ de l'épidémie, on nous a annoncé des milliers et des millions de morts. On nous a annoncé des milliers et des millions de contaminés. Un an après, nous n'en avons pas. Est-ce que ça veut dire qu'on a été performant sur la question? La sentence est claire. Le président de la République a pris les meilleures décisions pour ses compatriotes. Il a sauvé la vie de ses compatriotes. Je crois que c'est ce qu'on devrait en principe d'abord retenir avant de pouvoir rentrer dans la polémique.
Malachi Manaouda, ministre camerounais de la Santé publique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En 2014, lorsque les combattants du groupe État islamique ont pénétré dans la ville de Karagosh, dans le nord de l'Irak, une famille chrétienne a fui après avoir enterré leur fils de 9 ans. Maintenant, d'autres familles chrétiennes reviennent progressivement chez elles dans les débris de Karagosh, où les djihadistes ont voulu effacer toute présence chrétienne. Ces familles veulent accueillir le pape François qui entame une visite historique en Irak. Le reportage de Arash Arabazati de VOA, le récit avec Eric Manirakiza.
Il y a quelques années à peine, une célébration du culte chrétien dans cette ville du nord de l'Irak aurait été inimaginable. En 2014, des combattants de l'État islamique sont entrés dans la ville de Karagosh. Les 3 années d'occupation des djihadistes ont bouleversé la vie de Mazen Shem.
À la fin de 2016, je suis entré dans la ville avec les militaires qui ont libéré Karagosh. Nous sommes entrés dans cette église le 25 octobre. Elle était complètement en ruine.
Shem, sa famille et des milliers d'autres ont fui pour sauver leur vie.
Ils sont restés loin de leur maison pendant des années. La guerre a laissé des stigmates. Les maisons, les bâtiments et les routes sont tombés en ruine. Ces infrastructures qui avaient marqué ces familles pendant des générations sont devenues méconnaissables. Le père Amar Yako se souvient avoir vu l'église catholique syriaque de l'Immaculée, la plus grande d'Irak, pour la première fois depuis la libération de la ville de l'occupation du groupe État islamique en 2016.
Nous devions reconstruire les maisons pour que les gens puissent retourner chez eux. Une fois revenus chez eux, ce sont eux qui reconstruiront les églises. Cette approche a très bien réussi.
Les chefs religieux ont profité de cette reconquête par des forces loyalistes pour commencer la reconstruction. L'archevêque Johanna Petros Mouch et d'autres dirigeants ont mis en place un plan en vue de reconstruire les maisons des gens avec des fonds provenant d'organisations chrétiennes étrangères à but non lucratif. Selon les chefs religieux, le fait que Shem et sa famille reconstruisent leurs maisons est une autre étape dans la reconstruction d'une communauté chassée par la violence et la guerre. Mazen Shem se réjouit du soutien du clergé.
Quand nous sommes revenus, nous avons demandé de l'aide à l'église. Nous sommes allés voir le père Georges et ils ont finalisé la reconstruction de notre maison.
Dans la province de Mossoul, qui compte 14 églises détruites, dont 7 remontant au 5e, 6e et 7e siècle, il n'y a ni cathédrale ni même stade pour accueillir une messe papale, explique l'archevêque Najeb Michael dans le vieux Mossoul où il est né, détruit par la guerre contre les djihadistes en 2017. La grande église immaculée est maintenant en grande partie reconstruite et recevra le pape François le 7 mars. L'Irak comptait autrefois 1,5 million de chrétiens, mais en 20 ans, son nombre est tombé à 300 000. Les sunnites totalisent près de 90% de musulmans, les chiites 10%, majoritaires notamment en Iran et en Irak. L'avenue du pape à Najaf est donc une main tendue vers l'autre grand courant de l'islam. Le pape pourrait retisser ses liens, particulièrement dans le nord où vivent des dizaines de communautés, avec des mots forts qui témoigneront de sa bénédiction et de son soutien moral à un pays où différentes confessions et ethniques sont toujours latents, même si les mentalités changent, assure l'archevêque.
Ici aux États-Unis, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré mardi aux législateurs américains que l'attaque du 6 janvier contre le Capitole par des partisans pro-Trump tentant d'annuler la victoire électorale de Joe Biden était du terrorisme national. La correspondante au Congrès de VOA, Catherine Gibson, revient sur l'audition au Sénat hier. Le récit est de Nathalie Barche.
Lors de son audition devant les sénateurs mardi, le chef du FBI, Christopher Wray, a qualifié l'émeute du 6 janvier au Capitole de terrorisme intérieur, alimenté en grande partie par des groupes suprémacistes blancs qui représentent une menace sérieuse aux États-Unis.
Cela a été le plus grand de nos cas d'extrémisme violent à motivation raciste et de l'ensemble de nos affaires de terrorisme intérieur. Et le plus meurtrier au cours de la dernière décennie a été de ces mêmes extrémistes.
Christopher Wray a déclaré que les émeutiers provenaient d'un large éventail de groupes soutenant la suprématie blanche et la violence des milices et qu'il n'y avait aucune preuve d'allégation selon lesquelles certains étaient de faux partisans de Trump ou des militants de gauche.
Alors que nous enquêtons équitablement sur l'extrémisme violent de toutes les formes d'idéologie, nous n'avons à ce jour vu aucune preuve de la présence d'anarchistes ou de militants antifa dans le cadre de la journée du 6 janvier. Cela ne veut pas dire que nous ne cherchons pas et nous continuerons à chercher, mais pour le moment, nous n'avons pas vu cela.
Plus de 270 personnes ont été inculpées à ce jour pour leur rôle dans l'émeute du Capitole et les enquêtes avancent, a déclaré le patron du FBI.
Avec de plus en plus d'individus identifiés et inculpés jour après jour, le FBI s'est engagé à mener à bien cela, quel que soit le nombre de personnes.
De nombreux républicains soutiennent que la menace terroriste intérieure est égalée ou dépassée par des extrémistes de gauche tels qu'Antifa, citant l'incendie d'un palais de justice fédéral à Portland, dans l'Oregon, l'été dernier. le sénateur Ted Cruz.
Au cours de l'année écoulée, nous avons été témoins d'émeutes et de violences massives, alors que les extrémistes, dont beaucoup étaient de gauche, sont descendus dans les rues à travers le pays.
Un argument aussitôt balayé par les démocrates. Lors d'une audience à la Chambre la semaine dernière, les responsables de la sécurité du Capitole ont dit qu'ils n'avaient pas reçu de bulletin du FBI la veille du 6 janvier, avertissant d'une éventuelle violence. Ray a refusé de spéculer sur la façon dont les mesures de sécurité auraient pu être modifiées si l'avertissement avait été lu.
Et c'est la fin de ce journal à la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef Idriss Pal. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.